Elles ont des opinions différentes, des personnalités différentes. Elles les confrontent pour aller à votre rencontre. Elles en parlent encore tous les 4e samedi du mois, une émission de Vie Féminine Bruxelles sur Radio Panique 105.4 FM.
Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Panique 105.4 avec l'équipe d'Elles en parlent encore. Malgré le confinement, nous continuons à enregistrer des émissions radio pour vous, de chez nous. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'ouvrir un cycle de 2 émissions sur l'écoféminisme. Et comme d'habitude, on vous a sélectionné nos chansons préférées, mais aussi de la poésie qui vous feront autant kiffer que nous, on espère. Alors, pour cette première émission sur l'écoféminisme, on se retrouve en force avec Alice, Elsa, Lisa, Alex, Clémentine et au Home Studio, Steph, un grand, grand merci à toi. Alors, on va commencer avec une petite mise en bouche, une introduction à l'écoféminisme pour répondre à la question la plus basique, mais qu'est-ce que c'est en fait ? Et puis Alice va nous parler de la distinction qui a été faite entre la nature et la culture et sur laquelle se base, contre laquelle se bat l'écoféminisme. Et puis avec Elsa, on va remonter jusqu'en préhistoire pour essayer de comprendre quand est-ce que cette distinction elle a commencé. Lisa va nous parler de l'antispécisme et en dernier lieu, Alex et Clémentine vont nous présenter des grandes manifestations et personnalités que l'écoféminisme a produites. Alors, on espère que ce thème vous passionnera autant que nous et qu'on vous fera découvrir de nouvelles choses. Profitez-en. Alors, l'écoféminisme, c'est un concept, c'est aussi un courant théorique et c'est une pratique qui lie l'écologie et le féminisme. L'écoféminisme, c'est le produit de la conjonction de ces deux pensées. L'appel est donc à la conjonction des luttes. Le principal postulat écoféministe est que la domination masculine sur les femmes et le système de surexploitation et de non-respect de la nature ont des similitudes et des causes communes. C'est-à-dire que l'auteur de ces deux systèmes d'oppression est le même, le patriarcat. Ces deux logiques de domination constitueraient donc le fondement de notre société. Et qu'est-ce qu'on entend par patriarcat en fait ? Nous entendons par là la forme d'organisation sociale et juridique qui est fondée sur la détention de l'autorité par les hommes. Une société où le masculin incarne à la fois l'universel et le supérieur. Cette réflexion autour de l'analogie de la domination des femmes et de la nature permet aussi de réfléchir à d'autres logiques de domination, comme la domination raciale et coloniale, mais aussi au processus d'exclusion d'autres minorités, comme la chasse aux sorcières par exemple. Alors d'où est-ce que ça vient, l'écoféminisme ? Au XXe siècle, le premier mouvement qui a été qualifié par après d'écoféministe est le mouvement indien Chipko. Évidemment, nous pouvons retrouver dans l'histoire et dans le monde entier des combats féminins de préservation de la nature, mais nous allons retenir ce mouvement Chipko. Ce mot vient du mot Hindi Andolan, qui signifie mouvement, et de l'argot Hindi Chipko, qui se traduirait en français familier par peau de colle. Les activistes, toutes des femmes illettrées d'un petit village indien, se sont opposées à la déforestation des arbres de leur village en serrant leurs bras autour de l'arbre pour empêcher qu'il soit coupé. Elles défendaient ces arbres parce qu'ils constituaient le socle de leur culture et de leur économie locale. Et ce mouvement, qui s'inspirait entre autres de Mahatma Gandhi, n'avait pas de hiérarchie, mais une de ses porte-paroles, la plus connue, Vandana Shiva, vous sera présentée tout à l'heure par Alex. Quant à l'origine du terme écoféminisme, celui-ci ne peut pas être déterminé facilement. Plusieurs personnes l'ont probablement inventé en même temps. En tout cas, la plus connue d'entre elles, c'est la féministe française Françoise Daubonne, qui utilise le terme écoféminisme dans son ouvrage « Le féminisme ou la mort » en 1974. Alors, c'est quoi l'objectif de l'écoféminisme ? À quoi ça sert ? Son objectif, c'est un monde où les femmes et les hommes sont égaux, une société inclusive et respectueuse, où les rôles de genre sont dissolus et où les humains vivent en harmonie avec la nature, en la respectant et en la préservant. Évidemment, l'écoféminisme, c'est d'abord un mouvement militant, comme on l'a vu avec le mouvement Chapki. L'écoféminisme, c'est des pratiques activistes, mais celles-ci ont aussi trouvé écho dans le milieu académique. L'écoféminisme, il poursuit plusieurs objectifs. Il y a donc aussi plusieurs champs d'action. La recherche académique, la littérature, le militantisme. Mais l'écoféminisme, ça peut aussi être une spiritualité ou une performance artistique. Alors, en dernier lieu, j'aimerais vous présenter une division théorique qui traverse l'écoféminisme, mais qui traverse de manière générale les courants féministes et qui est importante à mettre en évidence. Il y a deux grands courants écoféministes qui existent, l'écoféminisme essentialiste, aussi appelé culturel, et l'écoféminisme constructiviste, qui est aussi appelé l'écoféminisme social. Les écoféministes culturels considèrent que les différences entre les hommes et les femmes sont naturelles. De là, elles veulent créer des modèles de féminité émancipée. Ça veut dire des nouveaux modèles de relations humain-nature qui sont basés sur une vision féminine. Et cette vision féminine serait inhérente à toutes les femmes. Ce courant est accusé de romantiser une vision sexiste de la femme, d'être conservateur et même dépolitisé. En opposé, l'écoféminisme constructiviste considère que les différences entre les hommes et les femmes reposent uniquement sur des constructions sociales. Ces écoféministes-là analysent donc les oppressions subies par les femmes et la domination de la nature comme des constructions sociales. Le but est de révolutionner la société, de déconstruire ces constructions, de mettre fin aux représentations genrées pour permettre l'égalité, et non pas de créer et promouvoir une vision entre guillemets féminine. Évidemment, l'écoféminisme en tant que tel n'existe pas. Il y a une variété énorme de théories, mais aussi de pratiques. Ce n'est pas un courant homogène. Et donc, une vision qui combinerait essentialisme et constructivisme pourrait être possible. Certes, les qualités féminines sont construites, mais ces qualités-là peuvent être revendiquées et appropriées par celles qui le souhaitent. Personnellement, pour moi, cela revient à déclarer l'existence de valeurs intrinsèquement féminines. Je pense qu'on devrait plutôt penser hors de la dualité genrée que la société patriarcale impose et promouvoir des valeurs non genrées que hommes et femmes et tout ce qu'il y a entre puissent s'approprier et défendre. Alors en résumé, qu'est-ce qu'on retient de l'écoféminisme ? L'écoféminisme tel que le définit Emily H, on retient le terme très important de « reclaim », qui veut dire se réapproprier, reprendre à son compte, réhabiliter, réinventer, reconquérir. Ce mot qui vient de l'écologie, elle signifie à l'origine reprendre une terre, l'assainir, la récupérer. Il s'agit donc à la fois de réclamer notre féminité, entre guillemets, peu importe notre genre, mais aussi notre connexion avec le monde naturel. Et c'est à nous de définir cette féminité et cette connexion à la nature. Et on doit sortir de la perspective capitaliste patriarcale qui interprète la différence comme hiérarchique et l'uniformité comme un préalable à l'égalité pour créer des nouveaux sens et des nouvelles interprétations et des nouvelles identités.
Merci Bissi pour cette introduction. Et ce sont justement ces divergences d'opinion qui m'amènent à vous partager maintenant une réflexion peut-être plus théorique, avant de poursuivre notre émission sur les différentes luttes écoféministes. Donc je vais essayer de décortiquer toutes ces notions a priori très philosophiques pour pouvoir cerner leur impact et leurs effets très concrets. Donc ces différentes réflexions essentialistes ou constructivistes autour de valeurs dites féminines reposent sur une même notion cruciale qui est au cœur des mouvements écoféministes, et donc je veux parler de la nature. Ce terme nature est un point central autour duquel ces questionnements gravitent. Donc ce terme nature évoque dans notre langage courant ce qui se référerait à ce qui nous entoure, aux végétaux, à la forêt, aux montagnes, au monde animal, etc. Donc tout ce qu'on pourrait autrement nommer la biosphère. Mais aussi dans son usage, ce terme nature fait référence à quelque chose qui serait évident, quelque chose qui serait vrai de tout temps, quelque chose qu'on n'a pas modifié. Lorsqu'on parle de quelque chose de naturel, on veut parler de quelque chose de brut. Et c'est ce qui amène justement certaines idéologies essentialistes à tenter de définir ce qui serait féminin par nature. Qu'est-ce que serait la nature féminine, entre guillemets, l'essence féminine. Donc ça reviendrait à attribuer une caractéristique qui serait propre à la femme, avec des gros guillemets bien entendu. Donc c'est pourquoi je pense qu'il est nécessaire de se poser la question sur ce qu'évoque et désigne ce terme de nature, car finalement se pencher sur les notions qui l'englobent permet de décortiquer certaines constructions et certains modèles de pensée. Quelles sont les utilisations de ce terme, parfois faussées, ces différents emplois qui amènent à des incompréhensions, et parfois même, on l'a vu au cours de l'histoire, à des idéologies qui peuvent être dangereuses. Donc, qu'est-ce que la nature ? À quoi se réfère-t-on ? lorsqu'on parle d'une nature. Et quelle est cette nature contre laquelle ou pour laquelle on se bat? Alors, très concrètement, lorsqu'on parle de la nature, c'est inévitablement pour la différencier, voire l'opposer à ce qu'on a nommé la culture. Et cette dualité entre nature et culture, ce paradigme, ce modèle de pensée, est à la base de ce qui constitue notre système de société actuel. Sur cette base, c'est-à-dire regrouper toutes ces choses, les végétaux, les forêts, les montagnes, etc., dans une même catégorie qu'on appellerait donc la nature, ce serait finalement une manière d'en extraire l'activité humaine, c'est-à-dire la civilisation, la ville, la technologie, etc. Donc par le simple fait de poser un mot qui engloberait tout ce qui constituerait la biosphère, aussi vaste et diversifiée soit-elle, on dissocie d'un côté la nature et d'un autre l'homme. Et d'ailleurs, ici, l'utilisation du mot « homme » pour désigner l'ensemble des êtres humains n'est pas anodine. Et c'est ici qu'on va pouvoir entrevoir justement le lien entre lutte écologiste et lutte féministe. Mais donc voilà, juste pour terminer sur cette idée de dualité nature-culture, en fait, faut bien comprendre que cette séparation très tranchée est le reflet justement d'une culture, est le reflet d'un système, et d'un système non seulement séparatiste, mais surtout d'un système séparatiste hiérarchique. Notre société repose sur des dualités, sur des binarités, entre des idées très tranchées et hiérarchisées. On le voit, hein, dans les idées, l'âme prime sur la matière, l'esprit prime sur le corps, la chasteté sur la sexualité, le rationnel sur les émotions, le bien sur le mal, la culture sur la nature, et donc bah, on y arrive, l'homme sur la femme. Et si l'on regarde la manière dont on a réécrit l'histoire, je fais une parenthèse, mais ici je dis réécrit l'histoire, car l'histoire c'est celle que l'on raconte, et cette histoire a été écrite à travers le point de vue d'homme. Donc dans cette histoire que l'on raconte, que l'on transmet, c'est l'homme qui a permis une évolution, qui est du côté des technologies, du progrès, et donc, inévitablement, qui est du côté de notre système actuel, qui est un système capitaliste. Un exemple, toute la recomposition sociale liée à l'émergence du capitalisme a eu pour effet d'accentuer l'exclusion d'une grande partie des femmes du monde du travail, et donc à les réduire à la sphère domestique. Et cette sphère domestique n'a pas de valeur dans notre société. Elle est non seulement dévalorisée, mais les charges de travail qu'elle représente ne sont pas rémunérées, elles n'ont pas de valeur économique. Donc c'est ce même rapport de domination qu'on va retrouver dans l'impact écologique qu'a le capitalisme. On peut le voir rien que dans les combats antinucléaires, où la difficulté, là, de la lutte repose sur l'aspect économique, le fait que le nucléaire soit une source de travail. C'est aussi par ailleurs une énergie puissante qui peut atteindre potentiellement le vivant, la planète, les humains. Et c'est ici aussi que repose une idée de puissance des États, avec la possession de la bombe atomique. Et ce problème de choix énergétique global illustre très bien ce dogme de la croissance dont je parlais tout à l'heure au cœur du capitalisme en fait. C'est quelque chose qu'on va retrouver aussi dans le véganisme, dont on parlera un peu plus tard dans l'émission, où là on fait face à une domination entre espèces. Donc voilà, déjà avec ces quelques exemples, on le voit bien, il ne s'agit pas seulement de lutte parallèle contre un système économique, mais bel et bien de lutte intersectionnelle contre un même système de pensée, où l'on retrouve toujours un rapport de force avec d'un côté une nature incontrôlable et sensible, et de l'autre, le pouvoir du contrôle et la domination. L'homme a la main sur ce qu'il a appelé nature. Et c'est pas pour rien que la femme est associée à la nature. Pareil, on le voit bien, hein. Qu'est-ce qu'on a associé à ce qui est féminin? Bah, ce serait être proche de ses émotions, être sensible, être fragile, être doux, être tourné vers la maternité, et donc être tourné vers la création de la vie. Et toujours dans une vision dévalorisante, presque infantilisante. Donc, tout ça dans un rapport à la nature masculine qui, elle, incarnerait au contraire un contrôle de ses émotions, une force physique et mentale, et son rôle, lui, plutôt tourné vers la vie et les interactions sociales que vers le foyer. En fait, l'homme est l'exemple même de celui qui s'est détaché de Dame Nature. Et cette idée de contrôler tout ce qui est du côté de la nature, et donc du côté féminin qui a été associé, peut se voir très concrètement dans la manière de contrôler le corps des femmes, avec un exemple parmi un milliard, mais ce sont tous ces débats autour de l'IVG, ou encore dans le contrôle de la sexualité des femmes. Je pourrais citer un autre exemple aussi dans l'histoire, mais la perte de contrôle des femmes et de leur savoir a aussi fait peur durant la chasse aux sorcières, puisqu'à ce moment-là, elles étaient en possession de savoirs médicinaux et d'une connaissance des végétaux. Et là, leur lien à la nature semblait incontrôlable. Une femme trop instruite s'éloigne de sa nature première. On préférerait bien souvent réduire son rôle à sa fonction première et naturelle, entre guillemets, hein, qui est celle d'enfanter. Donc on se rend compte ici que les injonctions faites aux femmes, les rôles qui leur ont été assignés et leur association à la nature n'est qu'une construction sociale. Et on se rend compte aussi que l'idée d'une nature, ici cette fois au sens biosphère, en opposition à la culture, est aussi erronée et est elle aussi une construction. Car l'homme a posé un mot dessus pour en faire une catégorie qui est hors culture, et donc une catégorie qui est non-homme. Mais en réalité, on ne peut pas extraire l'activité humaine de la biosphère. On en fait intrinsèquement partie, le monde est ce qu'il est, car nous en faisons partie. Il n'y a pas de séparation entre nature et culture. Et c'est pourquoi cette dualité doit être mise en cause. Et c'est d'ailleurs ce que démontrent les études autour de ce qu'on appelle l'anthropocène, qui est à la base un terme scientifique. Donc je vais vous donner une définition de ce que c'est l'anthropocène. L'anthropocène, c'est l'étude de l'ensemble des événements géologiques produits depuis que les activités humaines ont une incidence globale significative sur l'écosystème terrestre. Et donc je peux vous donner un bête exemple, mais la fonte des glaces. La fonte des glaces n'est peut-être pas un événement naturel puisqu'il est dû à l'activité humaine. Et l'activité humaine, par définition, est la culture. Donc on pourrait dire finalement que la fonte des glaces, c'est de la culture. Donc on fait face aux mêmes mécanismes qui peuvent être combattus ensemble entre destruction planétaire et domination des femmes par un même système impérialiste, capitaliste et patriarcal. Et c'est justement ici que s'inscrivent les mouvements écoféministes et leurs moyens de lutte. Car la problématique de ces mouvements écoféministes n'est pas seulement de rompre avec la naturalisation des femmes, mais c'est surtout de savoir ce qu'on peut faire aujourd'hui de cet héritage. Car ces formes de subordination, c'est finalement un héritage, c'est une histoire, c'est une transmission qui ont suivi les femmes au fil des siècles. Qu'est-ce qui a été naturalisé? Pourquoi? Comment revaloriser ce qui a été disqualifié? Et comment peut-on se réapproprier ces choses comme outil de lutte? Donc, je pense que le but de la lutte écoféministe n'est pas tant de valoriser certaines caractéristiques féminines naturelles, ou de les revendiquer, ou de les garder du côté féminin, mais je pense plutôt que c'est se pencher sur ce qui a été mis du côté de la nature. C'est cette idée de réappropriation que le mot « reclaim » véhicule, ce mot qu'on retrouve dans plusieurs textes écoféministes. C'est qu'est-ce qui a été mis du côté féminin? Et qui donc, par définition, a été dominé et dévalorisé. Et c'est aussi se le réapproprier d'un point de vue situé, d'en faire des outils de lutte pour pouvoir justement déconstruire un système de domination. Et donc, je vous invite aussi, pour finir cette chronique, à vous intéresser à différents écrits écoféministes, puisqu'ils mélangent vraiment tout type de genre. Il y a autant des textes de poésie, des textes théoriques, des textes politiques, beaucoup de textes philosophiques, forcément. Il y a énormément aussi de textes de science-fiction. Et donc, cette diversité, c'est une manière finalement de s'exprimer dans un autre type de langage que celui de la culture dominante. Et c'est surtout un moyen très concret et incarné aussi de raconter de nouvelles histoires. Car ce sont les récits que l'on raconte qui font histoire et qui construisent et qui définissent nos conceptions du réel.
Donc merci Alice pour ces explications passionnantes. Donc je vais maintenant voir justement d'où vient cette distinction entre nature et culture. Donc cette distinction qui est liée à la fois aux origines de l'exploitation des ressources naturelles et aux origines de la domination des hommes sur les femmes. Donc je vais faire un bond en arrière pour voir d'où serait née cette corrélation. Pour ça, je vais m'appuyer sur la théorie de Claudine Cohen. Donc Claudine Cohen, c'est une enseignante-chercheure. Elle a beaucoup travaillé sur les femmes via la paléontologie et à travers la préhistoire. Donc je me suis surtout en fait basée sur un podcast. Donc c'est Cro-Magnon, ce gentleman de l'émission Les couilles sur la table. Donc dans cette émission, Victoire Toyon interview Claudine Cohen. Donc je vous en recommande vraiment l'écoute, c'est vraiment super intéressant. Donc je vais faire ici un petit résumé. Donc déjà, la préhistoire, c'est une période immense. Elle représente 98% de l'histoire de l'humanité. Donc c'est compliqué de dire l'homme préhistorique est comme ça ou la femme préhistorique est comme ça. Mais il y a quand même des grandes tendances. Donc déjà, ce que dit Claudine Cohen, c'est qu'au paléolithique, donc le paléolithique, là aussi, c'est une période qui est immense, c'est 98% aussi de la préhistoire. Ça va de 3,3 millions d'années avant le présent et ça s'achève il y a 11 700 ans. Donc au paléolithique, déjà le dimorphisme, donc c'est-à-dire les différences physiques entre les hommes et les femmes, ce dimorphisme est très faible. Donc, par exemple, elle explique que des sépultures datant de 26 000 ans avaient été retrouvées en Italie. C'est des squelettes qui étaient comme ça assez costauds. Il y avait aussi des offrandes, des bijoux. Donc les paléontologues de l'époque, ils se sont même pas posé la question. C'était forcément des hommes. Mais dans l'une des sépultures, un bébé en gestation avait été trouvé, donc comme c'était au niveau du ventre, on va dire, du squelette. Et donc le squelette ne pouvait être que celui d'une femme. Et à ce moment-là, des recherches plus poussées ont été faites sur toutes les sépultures. Et en fait, c'était toutes des femmes. Donc tout ça pour dire que le dimorphisme était vraiment faible à cette époque-là. Donc faut savoir aussi que c'était quand même des conditions de vie qui étaient rudes. C'était des chasseurs-cueilleurs nomades, donc voilà, il fallait quand même être assez costaud aussi. Et donc ça valait aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Donc dans les années 70 aux États-Unis, il y a aussi des femmes anthropologues qui ont remis en cause l'idée que les groupes préhistoriques vivaient principalement de la chasse et que les femmes servaient juste à la reproduction. En fait, si on observe les sociétés de chasseurs-cueilleurs d'aujourd'hui ou du siècle dernier, les femmes contribuent énormément à la subsistance du groupe, en particulier via la cueillette, le ramassage d'œufs ou de petits animaux piégés. Elles font aussi le rabattage pendant la chasse, ramassent les animaux morts. Elles portent aussi beaucoup de charges, elles portent les enfants. Donc elles font des activités très variées et utiles au groupe. Ces mêmes activités, voire plus utiles en fait que la chasse de gros mammifères. La chasse de gros mammifères, en fait, ça représentait que un tiers de la part alimentaire. Les femmes aussi possédaient des savoirs très importants liés aux plantes, à la médecine. Elles pouvaient être sorcières, chamanes, et on en reparlera justement dans la suite de l'émission. Donc aussi à cette époque, les femmes ne peuvent pas avoir beaucoup d'enfants. Donc comme je dis, c'est des peuples qui étaient nomades. Donc avoir 5 enfants, 5 bébés dans les bras pour se déplacer, c'est pas évident. Et donc elles utilisaient l'aménorrhée de lactation. Par exemple, donc c'est donner le sein pendant toute une période et grâce au respect aussi de certaines règles, ça permet de ne pas tomber enceinte et ce jusque pendant 4 ans. Donc voilà, pour Claudine Cohen, le point de bascule, donc même s'il est progressif et que ça se déroule pas au même moment sur l'ensemble de la planète, c'est le passage au néolithique, le passage en fait, ce qui marque le passage au néolithique, c'est la sédentarisation. Donc c'était il y a environ 10 000 ans. Donc à ce moment-là, les hommes commencent à cultiver la terre, ils commencent à la dominer. C'est l'émergence de l'agriculture, de l'élevage et donc de la propriété. Donc tout ça, ça a aussi plusieurs impacts. Donc déjà d'une part, d'après Claudine Cohen, la propriété engendre l'augmentation de la violence. Au paléolithique, en fait, il y a très peu de traces de violence. Il y a un ou deux squelettes qui ont été retrouvés avec une flèche ou un coup, mais voilà, pas plus. Alors que néolithique, il y a vraiment des traces de guerre, de carnage. C'est aussi le début des premières cités, des groupes humains aussi qui sont beaucoup plus grands et avec des dominations entre les hommes. Mais d'autre part, la domination de la nature, donc la nature qui devient maintenant extérieure à l'homme, en fait, la propriété de la terre, engendre aussi une accentuation de la domination des hommes sur les femmes. Donc déjà, les femmes et les enfants sont particulièrement victimes de la violence dont je viens de parler, mais aussi pour travailler la terre, les femmes doivent faire des enfants et les élever. Donc les femmes sont alors beaucoup plus reléguées au foyer. Donc cette domination se retrouve aussi dans les caractéristiques physiques. À cette époque, le dimorphisme entre hommes et femmes s'accentue. Donc il y a plusieurs théories, mais d'après Claudine Cohen, ce serait notamment lié à des maltraitances et à une moins bonne alimentation des femmes, et aussi le fait que les hommes choisissent des femmes plus graciles à partir de ce moment-là. Donc elle nuance quand même en disant qu'au néolithique, il y a aussi des femmes qui ont du pouvoir, et ce qui se voit notamment dans des statues, dans des offrandes, dans des tombes, etc. Voilà, donc il y a aussi deux théories concernant les origines de la domination masculine. Donc je connais pas toutes les théories, je prétends pas du tout tout englober, mais donc il y a sûrement beaucoup d'autres théories. Mais dans la littérature francophone, il y a notamment les travaux de Françoise Héritier qui ont été assez importants. Donc pour Françoise Héritier, au néolithique, en observant les animaux d'élevage, les hommes ont compris les liens entre rapport sexuel et reproduction. Apparemment, c'était pas tout à fait clair avant. Et ils auraient alors souhaité, voulu contrôler les femmes pour éviter qu'elles se reproduisent avec d'autres hommes. De plus, toujours d'après Françoise Héritier, en considérant le pouvoir qu'ont les femmes de pouvoir enfanter, donner la vie, et en plus de pouvoir accoucher de filles comme de garçons, les hommes ont dominé les femmes pour pouvoir contrôler la perpétuation des lignées d'hommes. Donc les hommes ont voulu dominer cette surpuissance féminine et réduire leur rôle procréatif, à un simple lieu de passage ou à une matière modelable. Donc cette puissance qu'ont souhaité dominer les hommes est aussi revendiquée par de nombreuses femmes aujourd'hui, et ça rejoint certains courants de l'écoféminisme qui revendiquent le pouvoir des mères, la puissance de l'enfantement et l'importance des femmes dans la société, notamment à travers ce rôle de mère. Donc là-dessus, je vous conseille d'écouter l'épisode d'un podcast à soi sur le pouvoir des mères. Donc pour résumer et schématiser et faire clairement le lien avec l'écoféminisme, il semblerait que la domination accrue des hommes sur les femmes ait été liée à la domination de l'environnement naturel, de la biosphère. Donc en se sédentarisant, en cultivant la terre, en prenant possession de la terre, les hommes ont relégué les femmes à leur fonction reproductrice, comme la terre elle-même est reproductrice. Mais même ce pouvoir de reproduction, d'enfanter, a été considéré comme une menace, un pouvoir qu'il fallait lui aussi dominer, ce qui a une fois de plus augmenté la domination des hommes sur les femmes et sur leur corps.
Hace su olodo,
la dio que, la dio que,
la dio que, la dio que,
la dio que,
la dio que.
Yemaya olodo, awalodo mio. Yemaya olodo, awalodo mio.
Yemaya olodo, awalodo mio.
We are them ghetto bitches, speaking in tongue bitches, fall on the floor, that's age on the door. We are them ghetto bitches, speaking in tongue bitches, fall on the floor. That's age on the door.
We are them ghetto bitches, speaking in tongue bitches, fall on the floor. That's age on the door.
We are them ghetto bitches, speaking in tongue bitches, fall on the floor. That's age on the door.
Talk shit, we the cast battle. Long weeds, long nails, corn rope, pigtails. Baby fox still in jail. Good witches I fuck with. Bad bitches, we run shit. Four bitches, four corners.
might match this nothing.
I'm reaching my altar. I'm reaching my altar. I'm reaching my altar. Got coins on the counter.
I'm that Black Rican Bruja straight out from the Yoruba. And my people come from Africa, diaspora, Cuba. And you mix that Arabic, that original people. I'm that Black Native American. I vanquish your evil. I'm that Black Rican Bruja straight out from the Yoruba. And my ancestors Nigerian. My grandmas was Brujas. And I come from an island. And it's for Puerto Rico. And it's one of the smallest, but it got the most people.
I'm reaching my altar. I'm reaching my altar. I'm reaching my altar. Got coins on the counter. I'm reaching my altar. I'm reaching my altar. I'm reaching my altar. Got coins on the counter.
Don't you fuck with my energy. 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 Casting spells with my cousin. I'm the head of this coven. I'm a shape-shifting bitch. You don't know who you loving. Better light you a candle. I heard the nighttime was black. And if you don't watch your step, the greatest bitch will be back. I cast a circle in white, and I can vanquish your spike. And if you hex me with hate, then I'ma conjure the light. Your evil ways put no fight. I ain't no queen of the night. I'm a Bruja, I'm a Bruja, and I'ma dress in all white.
L'écoféminisme vegan est une philosophie qui a été marquée notamment par des écrivaines et militantes aux États-Unis, comme Carol Adams, Josephine Donovan ou Sherry Lucas. Mais elle a aussi des représentantes francophones, comme par exemple Noura Bouazouni, ou les militantes derrière des chaînes YouTube comme La Petite Okara ou Antastasia, ou derrière le podcast Réflexion faite. Le terme vegan désigne une philosophie et un mode de vie qui rejette toute exploitation et toute utilisation des animaux et des produits d'origine animale dans la nourriture, la cosmétique, la mode, le monde du sport et des loisirs, etc. L'idée centrale dans l'écoféminisme vegan est que la subordination des femmes et des animaux est inextricablement liée, comme écrivaient Carol Adams et Josephine Donovan. Je cite « Nous jugeons que le féminisme est une philosophie transformative qui salue l'amélioration de la vie sur Terre de toutes les formes de vie. Aucune créature ne sera libre avant que toutes les créatures soient libres. Libres d'abus, de dégradation, d'exploitation, de pollution et de commercialisation. Et en fait, les femmes et les féministes ont joué et continuent de jouer des rôles fondamentaux dans les mouvements pour les droits des animaux. Dans son livre « La politique sexuelle de la viande », qui est devenue une des saintes écritures de l'écoféminisme vegan, Carol Adams observe qu'il y a depuis longtemps, et un peu partout, une tendance d'associer les femmes à la nature et aux animaux, et de regarder les femmes et les animaux comme des ressources prêtes à être exploitées. Le patriarcat célèbre l'homme blanc, le rationnel, la force physique, l'action et la violence. Donc le contraire des caractéristiques qui sont considérées féminines, naturelles ou animales, comme la passivité, la douceur, la sentimentalité, l'imprévisibilité, l'irrationnel et la faiblesse. Et voir la méchanceté. On se souvient du passage dans la Genèse qui accuse une femme et un serpent d'être à l'origine de tout le mal dans ce monde. Le patriarcat assigne la maîtrise de la nature, des femmes et des animaux aux hommes modèles et justifie alors l'oppression et l'exploitation de celles dernières. Comme l'explique aussi Noura Bouazouni dans son livre « Féminisme », la nourriture est genrée. Les femmes sont associées à tout ce qui est végétal, et donc une nourriture végétale est considérée appropriée pour les femmes. La consommation des corps des animaux est surtout pour les hommes, les chasseurs, qui font le vrai travail et qui ont besoin d'eux et le droit à la nourriture plus riche en protéines. Carol Adams cite l'exemple de l'Éthiopie, où il est usuel pour les femmes de préparer un plat végétal pour elles-mêmes, et un autre plat qui contient de la viande ou du poisson pour les hommes. Les habitudes de réserver la plupart de la nourriture aux hommes pendant les 17 ou pour les femmes de manger après les hommes, et aussi d'encourager les femmes enceintes à manger de la viande et du poisson si elles souhaitent un fils, témoignent ainsi de cette vue genrée de l'alimentation. Tous les chefs de grillade, masculins, qu'on voit apparaître chaque été, ne sont malheureusement pas des messagers de la révolution féministe qui importera un partage égalitaire des tâches de ménage, mais ils représentent une manifestation de la virilité liée à la viande. Dans le slang anglophone, les hommes qui ne sont pas considérés assez masculins sont nommés « soy boys », donc « mecs de soja ». Car apparemment, il n'y a rien de plus masculin qu'un produit qui substitue la protéine animale. Similairement, les militants anti-chasse masculins sont souvent confrontés à des insultes décidément homophobes. À ce point-ci, on doit aussi mentionner le symbolisme fort dans l'exemple de la fameuse Steak and Blowjob Day, ou bien la journée Steak and Pee. Curieusement, la version pour les femmes, qui existe aussi, c'est la journée Cake and Cunnilingus. Donc c'est du steak pour lui et du gâteau pour elle. Aussi curieusement et presque paradoxalement, même si les animaux morts dans les assiettes sont considérés affaires d'hommes, les animaux vivants sont souvent assimilés aux femmes. Qu'on observe encore Carol Adams dans son œuvre « La pornographie de la viande », le patriarcat animalise et sexualise les femmes, et il féminise et sexualise les animaux, pour indiquer que soit les femmes, soit les animaux sont de la proie. Les images dans les médias et dans la publicité qu'on voit chaque jour montrent le processus en trois étapes qui est derrière l'oppression et l'abus des femmes et des animaux. L'objectification, la fragmentation et la consommation. Les femmes et les animaux en question ne sont pas vues comme des individus, mais comme une ressource. Elles sont considérées en tant que corps et représentées comme prêtes pour être exploitées ou avalées comme le juge bien le chasseur. Pense-t-on aux images des femmes avec un gros burger dans leur bouche, ou encore mieux, un gros hot-dog, ou aux images des corps de femmes qui sont classifiées avec des termes qui rappellent ceux qu'on entend normalement à la boucherie. Souvent, ces images sont accompagnées par des slogans comme « La viande chaude, c'est la joie. Savourez-la, dans toutes ses formes. » Puis, il y a des affiches des boucheries qui montrent, par exemple, un cochon féminin en bikini, ou les restos qui donnent des noms comme « sexy chick » à leur sandwich. L'objectification, la fragmentation et la consommation des femmes et des animaux deviennent donc normalisées. Et encore plus, elles sont rendues sexy et délicieuses. En plus, il y a toute l'histoire du langage. Pour insulter ou infantiliser une femme, on la dénomme poulette ou bichette, alors qu'un homme qu'on appelle cochon est au pire quelqu'un qui mange salement. Et si on classifie un homme comme un étalon, c'est voir quelque chose de positif. Similairement, soit les femmes, soit les animaux sont souvent absentes, ignorées ou cachées dans nos discours. Dans la grammaire française, on sait que c'est le masculin qui l'importe, et en anglais et en allemand, on parle souvent des animaux en disant « it » ou « es », alors en utilisant le pronom neutre qui est également utilisé pour parler des objets. Dans l'assiette, on ne trouve pas un morceau d'un cochon tué, mais du porc ou une escalope. Est un abus sexuel dans un bar est souvent considéré une drague indésirable ou un malentendu. Les femmes et les animaux deviennent alors éradiqués de ces discours. Et dans ce cas, Carol Adams les appelle les référentes absentes. Un dernier point commun de l'oppression des femmes et celle des animaux est l'exploitation de leurs capacités reproductives. Pour le maintien d'un système social comme le patriarcat, on a nécessairement besoin de celles qui mettent au monde de nouvelles générations, qui s'en occupent et qui fournissent des ressources et des services sans être récompensés. Ces besoins sont satisfaits par des pratiques comme par exemple le travail domestique et émotionnel des femmes, l'insémination artificielle des animaux ou la production industrielle du lait ou des œufs. Le but de l'écoféminisme vegan est donc la libération de toutes les êtres vivants de ces structures d'oppression et d'abus et la mise en place d'une coexistence harmonieuse entre les êtres humains, les animaux et la nature entière. Comme l'écoféminisme au sens plus large, l'écoféminisme vegan est en même temps une philosophie et une pratique quotidienne, qu'on exerce à travers ses choix de consommation. Carol Adams l'appelle une théorie que les gens performent avec leur corps. On y retrouve également la notion de la deuxième vague féministe, selon laquelle le privé est politique. Car, selon les écoféministes vegan, ce qui se trouve dans nos paniers, dans nos frigos, dans nos casseroles et dans nos assiettes est politique. Malgré cette quotidienneté et une simplicité relative de cette forme de militantisme, Carol Adams souligne que dans un système patriarcal et violent, aucune forme de militantisme ne peut être considérée facile ou pas dangereuse pour les femmes. Catherine Paxton-George va encore plus loin et rejette complètement l'écoféminisme vegan, qui, à son avis, est dangereux et accablant pour les femmes. Voilà, c'est la fin de cette partie. J'espère que vous avez trouvé cette introduction à l'écoféminisme vegan intéressante. Et évidemment, je vous conseille vivement de vous plonger plus dans cette thématique comme vous pouvez.
On sait que l'écoféminisme est un mouvement multiple et aujourd'hui, je vais vous faire le portrait de deux figures écoféministes qui sont tous deux ancrées dans un courant différent. Commençons par Starhawk. De son vrai nom, Myriam Simos, cette américaine de 68 ans est considérée comme la représentante de l'écoféminisme spirituel. Théoricienne du néopaganisme, qui est un mouvement de renaissance du paganisme antique et qui reprend en compte le polythéisme, le folklore européen, l'ésotérisme et la sorcellerie, Starhawk estime qu'il n'y a pas de combat politique sans base spirituelle. Elle a parcouru le monde entier pour enseigner l'action directe non violente, sous forme d'ateliers, de camps et de rituels publics. Et d'ailleurs, à propos de ces rituels, elle dit « Si les politiques faisaient les lois en dansant plutôt qu'en parlant, elles seraient bien meilleures. Plus sérieusement, un rituel tel qu'une danse ou un chant nous aide à nous connecter émotionnellement, et donc plus profondément qu'avec un lien purement intellectuel. Cela peut être utile quand on est féministe, parce que c'est un activisme épuisant. » Donc en gros, pour Starhawk, sa sorcellerie est politique. S'inspirant de la Wicca, qui est une forme de sorcellerie centrée sur la terre et la nature, elle appelle à convoquer l'énergie collective lors de rituels pour se reconnecter à la nature et aux autres, à affronter la peur pour la transformer en pouvoir, réveiller le pouvoir du dedans face au pouvoir sûr, et enfin rêver l'obscur, qui est aussi le nom donné à son essai dans lequel, pour la première fois, elle réinterprète l'histoire des femmes accusées de sorcellerie, et nous invite à nous réapproprier notre relation à la nature de manière positive, dans le but de nous défendre l'une et l'autre. Notre deuxième portrait concerne Vandana Shiva, qui est un peu la figure de proue des altermondialistes occidentaux. Elle se situerait plutôt dans le courant de l'écoféminisme matérialiste ou socio-économique, qui, en plus de la critique marxiste du capitalisme, ajoute à son analyse les rapports de domination nord-sud, ainsi que la domination coloniale et post-coloniale qui pèse encore lourdement sur les femmes. Vandana Shiva naît en Inde et elle est titulaire d'un master en physique des particules et d'un doctorat portant sur les fondations de la physique quantique. Revenue en Inde après avoir fait ses études au Canada, elle devient volontaire au sein du mouvement SHIPCO, mouvement de femmes dans les années 70, qui lutte contre la déforestation de l'Himalaya en protégeant les arbres avec leur corps, SHIPCO signifiant « mouvement de l'étreinte ». Ce mouvement était porté par les femmes car en Inde, c'était elles qui faisaient vivre leur famille en travaillant dans les collines et dans la forêt. Dans les années 90, elle lance Navdanya, une ONG dédiée à la protection de la biodiversité et au développement de l'agriculture biologique, suite à l'intention de Monsanto de breveter les semences. En luttant contre l'introduction des OGM dans son pays, elle est également engagée pour la promotion de l'agriculture paysanne traditionnelle et biologique, ainsi que pour les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Vandana Shiva a reçu le prix Nobel alternatif en 1993, pour avoir placé les femmes et l'écologie au cœur du discours sur le développement moderne. J'avais également envie de vous parler de deux campements féministes anti-guerre et anti-nucléaire qui ont été très déterminants dans la lutte écoféministe. Le premier, le camp de femmes pour la paix à Greenham Common, a débuté en Angleterre en 1981 et a été démantelé définitivement en 2000. L'implantation du camp démarre en septembre 1981, à l'initiative de 36 femmes du Pays de Galles qui ont organisé une marche depuis Cardiff afin de protester contre le projet de l'OTAN d'installer des missiles cruise équipés de têtes nucléaires sur la base Royal Air Force de Greenham Common. Les militantes, habillées en blanc et en violet, donc couleur des suffragettes, commencent par s'enchaîner aux clôtures et réclament un débat télévisé avec le ministère de la Défense. Donc évidemment, leur demande est rejetée, elles refusent de partir et c'est à partir de ce moment-là que débute l'occupation. À partir du 1er avril 1983, ce camp de protestation va devenir célèbre lorsque des dizaines de milliers de personnes vont former une chaîne humaine entre Greenham et l'usine d'armement nucléaire d'Aldermaston, soit une chaîne d'environ 20 km.
Les médias donnèrent un écho important à cette action et ça entraînera la création d'autres campements de protestation pacifistes sur plus d'une dizaine de sites en Grande-Bretagne, en Europe et ailleurs. Les campeuses de Greenham Common veilleront toujours à établir des contacts avec d'autres protestations féministes, antinucléaires et antimilitaristes dans le monde entier, situant leur mouvement dans une dimension internationale. Le principe de non-mixité était également essentiel pour ces militantes. Les bases de la Royal Air Force étant strictement interdites aux femmes, leur seule présence pacifique dans ces espaces représentant la domination virile était un acte de protestation. Et quand les hommes étaient invités au camp dans le cadre d'action, il leur était demandé de participer aux tâches traditionnellement dévolues aux femmes, comme tenir la crèche ou s'occuper de la cuisine par exemple. En s'imposant sur une base militaire et en refusant de se soumettre au rôle de femme au foyer auquel elles étaient assignées, ces femmes faisaient l'objet de virulentes attaques médiatiques, arguant qu'elles mettaient en péril les valeurs de la famille et les valeurs de l'État, et les décrivant comme des sorcières qui menaient des activités illégales. Elles étaient fréquemment contrôlées par la police et certaines actions ont abouti sur plus d'une centaine d'arrestations. Les campeuses de Greenham Common ont également dû faire face aux critiques des mouvements pacifistes et antinucléaires traditionnels, donc mixtes, qui pensaient qu'elles discréditaient la cause qu'elles s'étaient engagées à défendre. Et donc, clairement, ça c'est vraiment l'argument antiféministe par excellence qu'on continue d'entendre dès que des femmes osent défendre une cause de manière collective. Et donc on remarque bien que les milieux militants n'est pas épargné par le sexisme, malheureusement. Comme expliqué un peu plus tôt dans cette chronique, le camp de Greenham Common a influencé la création d'autres camps de protestation un peu partout dans le monde. Le camp des femmes de Seneca pour un futur de paix et de justice s'implante à Seneca Falls, aux États-Unis, en mémoire de la toute première convention pour le droit des femmes, tenue en juillet 1848, et à proximité du dépôt d'armes de Seneca, au nord de New York. Il fut créé pour protester contre le déploiement de missiles Cruise avant le renvoi présumé du dépôt de l'armée de Seneca en Europe à l'automne 1983. À l'été 83, 12 000 femmes du monde entier se rassemblent pour implanter un camp d'entraînement à la non-violence, et puis les manifestations, campements de protestation et actions de désobéissance civile se multiplient tout au long des années 80, et une présence continue de protestations féministes, anti-guerre et anti-nucléaires est assurée jusqu'en 2006 sur le site de Seneca. Ce campement a réuni des milliers de femmes avec des opinions politiques, des orientations sexuelles, des religions, des nationalités et des milieux économiques différents. Comme Greenham Common, le camp est non mixte et ne sont autorisés à participer à la vie du camp que les garçons ayant moins de 12 ans. La communauté de Seneca étant conservatrice, des contre-manifestations avaient régulièrement lieu quand les femmes du camp organisaient des actions, des événements, et la presse les décrivait comme des sorcières, lesbiennes et végétariennes. Pour rendre hommage au campement de Seneca ainsi qu'à celui du Greenham Common, le mouvement Window Peace a été créé à New York. Window Peace était une performance artistique qui a duré une année et qui avait lieu dans la devanture Sohozat, située à Manhattan. L'artiste Suzanne Kleckner a été à l'origine de la première installation et à l'instar de la pratique du mouvement Greenham Common, seules les femmes artistes pouvaient participer. Et donc chaque semaine, pendant une année entière, 51 femmes artistes et activistes des camps occupèrent la vitrine avec leur art. Les activistes de Greenham ainsi que celles de Seneca et des autres camps pour la paix ont toujours revendiqué leur droit à une protestation non violente, antipatriarcale, anti-hiérarchique. Elles ont mis en place un système d'auto-organisation, elles ont créé un réseau de résistance et ont œuvré à faire entendre les voix des femmes au cœur de la vie et de l'activisme politique.
Suzanne Sachs, née en 1949, poétesse, militante lesbienne féministe radicale et anti-guerre, a participé en 1970 au braquage d'une banque au cours duquel un policier fut tué. Recherchée par le FBI pendant 5 ans, elle fut emprisonnée en 1975 pour une durée de 7 ans. C'est pendant sa clandestinité, probablement en partie au sein de communautés lesbiennes séparatistes, qu'elle a écrit ce poème. Pour l'agent du FBI qui, enquêtant sur une sœur, demanda « Qui fait partie de son réseau ?» Une question stupide. Qui fait partie de mon réseau ? Qu'est-ce qui nous lie, précisément ? Autant chercher à comprendre la force qui pousse le cours de l'eau à travers la roche, qui relie les semblables et fait s'attirer les contraires. Qui guide le lombric sous la terre et rend les fourmis aussi têtues et obstinées ? Quand le vent et la pluie érodent le sol, qui pousse la racine à résister ? Et quelle main invisible a inscrit son message codé dans la graine ? Qui dirige la toile de l'araignée et organise la stratégie de la mauvaise herbe ? Quelle imagination a pu inventer l'infrastructure de la vigne, la révolte de l'herbe contre le ciment, la rébellion du pissenlit ? Quelle force ébranle les murs jusqu'à les fissurer ou fait repousser les branches des arbres lorsqu'elles ont été coupées ? Qui dissimule les passages entre la mort et la naissance ? Qui mène la révolution de la terre ? Qui fait partie de mon réseau ? Qu'est-ce qui nous lie, précisément ? Autant chercher à comprendre la force qui pousse le cours de l'eau à travers la roche, qui relie les semblables et fait s'attirer les contraires. Enquêter sur les marguerites qui envahissent les pelouses, ou sur le lierre qui pénètre partout où il le désire. Accuser le ciel d'avoir fait tomber la pluie et contribuer au débordement de la rivière. Arrêter la mouette pour vol illégal, décréter une frontière pour enfermer la mer. Demander à une montagne de modifier son altitude. Essayer d'empêcher une femme libre de s'exprimer.
Je vais maintenant vous parler de l'écoféminisme dans l'espace public de par ses manifestations. Alors, les premières manifestations ont commencé aux États-Unis dans les années 80. Souvenez-vous ce que disaient Alice et Alex, avec Free My Island and Greenham Common, des groupes écoféminismes avec des femmes qui luttaient contre le nucléaire, grande polémique de l'époque. Je vais maintenant vous citer, pour introduire encore plus, et je vais m'appuyer sur le texte « Être écoféministe, théorie et pratique », thèse réalisée par Jeanne Burga-Goutel, publiée cette année en 2020. Elle écrit « En pratique, les écoféministes ont donc fait feu de tout bois lors des grandes années du mouvement. Création de collectifs, manifestations, campements, blocus, marches de protestation, cortèges, chaînes humaines, activités associatives, coven de magie, réunions secrètes, réunions ouvertes, actes de désobéissance civile, chants, tambours, danses, peintures, films, performances, tracts, essais, fanzines, witch camp, formations en tout genre, retour à la terre, etc. etc. » On observe de nos jours que depuis 2015 et la COP21 de Paris, il y a eu un changement mondial sur l'action, avec des groupes internationaux organisés. Je vais citer par exemple Women's Voice for the Earth, qui reprend des actions écologiques mais dans le sens de la beauté et du bien-être pour les femmes, dans le monde entier. Ou alors Women's Environmental Network Health, qui eux s'appuient sur 6 thèmes, qui est la qualité de l'air, tout ce qui est l'environnement, la nature, le bien-être de la nature, la nourriture avec le commerce équitable, un habitat sans toxique, et aussi qui reprend des actions pour le climat par le travers le monde. Ils font énormément de séminaires, aussi bien à Paris qu'à New York. Je vais aussi citer, au Burkina Faso, We Do. Ce sont des femmes qui se... Women Environmental Program Burkina, qui est un groupe de femmes au Burkina Faso qui luttent au sein même de leur pays, car c'est un pays très touché par le réchauffement climatique, pour sensibiliser les gens aux actions qu'ils peuvent faire tous les jours. Pour reprendre We Do, Her Story, ça se passe par contre là aux États-Unis et eux aussi font des conférences et des actions pour crédibiliser le mouvement écoféministe. De plus, on va partir plutôt en Europe, en 2019. Greta Thunberg, qui depuis 2 ans maintenant fait la grève tous les vendredis, qui se nomme, ce mouvement s'appelle Friday for Future. Bien sûr, ce mouvement en Europe n'est pas un mouvement écoféministe en tant que tel, puisque c'est pour les étudiants. Malgré tout, l'année dernière, pour la journée de l'égalité des femmes, des lycéens et des étudiants ont fait une tribune avec des revendications spéciales sur l'égalité des femmes, car pour eux, la lutte pour l'écologie ne pouvait pas se faire pour une lutte pour l'égalité des genres. L'année dernière, en France, à Bure, un week-end écoféministe a été organisé pour lutter contre le nucléaire. Il ne reprenait pas que des cisgenres, mais intégrait aussi des transgenres et des queers, avec une sensibilisation d'ailleurs spéciale pendant ce week-end pour ces personnes-là. Vie féminine, par l'association pour laquelle nous sommes aujourd'hui, a écrit 12 recommandations. Et l'article numéro 3 est « Dans une société égalitaire, solidaire et juste, le modèle de consommation est durable, équitable et accessible à tous et à toutes. » Ce qui, je pense, est très important pour vous expliquer que c'est vrai que l'écoféminisme en tant que tel est un mouvement, mais qui se retrouve aussi dans d'autres mouvements, comme par exemple des actions écologiques, comme on vient de le voir, ou des idéaux écologiques au sein des mouvements féministes. C'est comme un peu le yin et le yang. Il y a de l'écologie dans le féminisme et du féminisme dans l'écologie. Par exemple, à Notre-Dame-des-Landes, la ZAD, des femmes se sont regroupées pour faire des ateliers sur l'égalité des genres, car elles se sont rendues compte que la lutte qu'ils faisaient était certes très importante pour eux, mais que de grandes disparités et le temps de parole était différent lorsque c'était un homme et une femme. Et les femmes étaient, au sein de la ZAD, plutôt reléguées au care ou aux activités de ménage. Chose qui, au sein d'une société qui était censée prôner le changement, les dérangeait énormément. Donc ça a été mis en place. Et aussi, il y a des workshops ici en Belgique avec Terre et Conscience. C'est un mouvement écologique. Mais qui prône en ce moment depuis quelques années et qui fait plusieurs fois par an des séminaires et des ateliers sur la place des femmes dans l'écologie. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller sur internet, c'est full de recommandations. Et certes, l'écoféminisme en tant que tel est très peu représenté en Belgique, mais si vous rapprochez de mouvements écologistes ou de mouvements féministes, vous pouvez porter cette action au sein de vous. Je vous souhaite un bon confinement. Et n'ayez pas peur de prôner des toutes petites actions écologiques au sein de votre vie ou de petites actions féministes. L'un et l'autre se complètent finalement. Bonne journée.
Merci à toutes et à tous d'avoir passé cette heure d'émission avec nous. On se quitte avec un dernier poème lu par Lisa et on se retrouve le mois prochain pour un deuxième volet sur l'écoféminisme. D'ici là, prenez soin de vous.
Une femme micronésienne par Rosie Bertel. 1983. Mon bébé, fruit de mes entrailles, attendu pendant 9 mois. J'ai chanté pour lui. Je préparais ses vêtements. Je rêvais de doux rêves. Mon bébé, fruit de mes entrailles. Il n'avait pas de visage à embrasser. Il n'entendait pas mes chansons. Pas d'yeux, pas de main. Une grappe de raisin. Mon bébé, fruit de mes entrailles. Son cœur battit intensément, puis s'arrêta. Je l'ai serré fort dans mes bras. Je l'ai haï. Je l'ai aimé. Je l'ai caché à ma vie. Mon bébé, fruit de mes entrailles. Son père était la bombe atomique. Il a violé notre terre. Il a tué nos arbres. Il a pris ma vie.
Elles ont des opinions différentes, des personnalités différentes. Elles les confrontent pour aller à votre rencontre. Elles en parlent encore tous les 4e samedi du mois, une émission de Vie Féminine Bruxelles sur Radio Panique 105.4 FM.